comme je l'ai déjà mentionné l'autre jour, nous sommes extrêmement habiles pour explorer ce qui est extrêmement petit. Nous avons développé des appareils pour découvrir des choses immensément petites, et puis aussi pour explorer ce qui est très lointain avec des appareils sophistiqués, tous les ordinateurs. Donc, presque plus de limites. Il suffit simplement d'améliorer un petit peu les instruments que nous avons pour continuer cette exploration, l'enrichir. Nous avons développé des capacités extraordinaires pour découvrir le monde qui nous entoure, infiniment petit, infiniment lointain. Mais lorsqu'il s'agit de découvrir ce qui est extrêmement proche de soi-même, alors ces appareils sophistiqués ne fonctionnent plus. Pas s'observer au microscope dans la méditation, ni au télescope d'ailleurs. Donc lorsque nous essayons d'explorer ce qui est tellement proche de nous qu'il n'y a plus de distance, à ce moment-là, nous sommes pris au dépourvu. Vous voudrez bien une sorte de point d'Archimède, un point d'observation, une sorte de recul. Mais le recul, c'est exactement ce qui nous manque lorsque il s'agit d'explorer ce qui est tellement proche de nous, tellement intime, qu'il n'y a pas de distance. Et on sent bien cette difficulté en enseignant nous-mêmes, en parlant, comment c'est difficile de trouver un langage qui immédiatement ne ramène pas l'expérience à quelque chose d'observable, qu'on pourrait mettre devant soi et observer. Et aussi, malgré peut-être le soin que nous prenons dans notre vocabulaire, d'avoir constamment des gens qui viennent dire « quand j'observe ceci, j'observe cela ». Donc tout ceci qui mentionne, qui indique une certaine distance. Donc ce que nous explorons, dans le fond, nous sommes extrêmement démunis pour explorer. Et c'est ce qui est déconcertant. Pour imaginer souvent, on va demander, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors faire, on sait bien quand il s'agit justement d'observer, d'analyser quelque chose, et là tout d'un coup on est dans une sphère un peu différente, où il ne s'agit plus tellement de faire, mais d'être dans une plus grande intimité à soi-même sans cette distance ou cette scission qui se passerait, où tout d'un coup on deviendrait un observateur de soi-même. C'est-à-dire ce qui nous concernerait, c'est quelque chose d'observé. Donc ce soir, j'aimerais aborder justement ces éléments qui, manifestement, sont de l'ordre de quelque chose d'extrêmement intime et qu'il est difficile de mettre à distance. Et dès qu'on les met à distance, à ce moment-là, c'est autre chose qu'on observe, qu'on explore, et on peut prendre ces autres choses pour ce qu'on s'était fixé, ce qu'on avait choisi d'explorer, et on a glissé dans autre chose. Je voudrais ce soir évoquer un peu les pensées à nouveau et les émotions, qui sont évidemment quelque chose qui nous concerne dans la méditation, au plus profond, puisque ce qui nous conditionne dans la vie, plus que les sensations corporelles, c'est quand même les pensées et les émotions. C'est ce qui nous agit, c'est ce qui nous limite, c'est ce qui nous perturbe et aussi qui nous touche. C'est une richesse, c'est pas un défaut. On a l'impression qu'avec les émotions, c'est pas vraiment qu'en faire. Donc j'aimerais aborder ceci, c'est évidemment un sujet assez vaste, donc je vais pouvoir faire des raccourcis pour essayer de rendre compte de la manière dont on pourrait explorer ceci dans la méditation. Et pour explorer, il me semble qu'il y a tout d'abord une attitude qui est nécessaire et enrichissante, c'est celle de s'étonner. Quelquefois, on croit trop facilement qu'on sait de quoi on parle. Les pensées, on sait de quoi on parle. L'émotion, on sait de quoi on parle. Et puis, quand on essaye de s'en approcher, pour utiliser ce langage-là, ou de découvrir ce qu'elles sont, on se rend compte que ce n'est pas évident. Et qu'il y a beaucoup de confusion autour, et de la pensée et de l'émotion d'ailleurs, ou des émotions. Et cette confusion tient justement au fait qu'on manque de recul. Donc à avoir cet étonnement pour se dire dans le fond, mais qu'est-ce que c'est vraiment ceci? Si on aborde tout d'abord la pensée, on sait très bien l'utiliser de manière très, très sophistiquée. Les scientifiques, les philosophes, chacun a sa manière d'utiliser les pensées. Quand on regarde la philosophie, c'est extraordinaire. La complexité de la manière dont on peut utiliser la pensée. Une telle complexité que souvent c'est très difficile de comprendre. Mais ce qui surprend, c'est que dans le fond, mais qu'est-ce qu'une pensée? Non pas donner des pensées au sujet d'une pensée, commencer à l'expliquer, c'est ceci, c'est cela, ça raconte une histoire, etc. Mais dans l'expérience immédiate, qu'est-ce que c'est qu'une pensée? C'est quoi quand nous pensons, il y a une pensée qui surgit, nous pensons quelque chose, qu'est-ce que c'est que cette pensée? Cette manière de s'étonner en disant c'est quand même quelque chose d'assez surprenant. C'est difficile à explorer, parce que voilà, soit on la place devant, on va l'analyser par d'autres pensées, on va la mettre au microscope, c'est quand même un peu déconcertant de vouloir l'aborder. Mais c'est néanmoins extrêmement important puisque ça détermine, pour ainsi dire, l'essentiel de notre vie. Dans le bon, dans le bien, dans l'agréable, comme dans le moins bien, dans le désagréable, dans le plus difficile. La valeur que nous attachons aux pensées, on se rend bien compte quand on parle, différents systèmes de croyances, politiques, sociaux, etc., combien ceci détermine une certaine manière de s'engager dans la vie, dans l'activité. Mais qu'est-ce que c'est qu'une pensée? J'aimerais essayer de nous engager dans cette exploration avec des raccourcis évidemment, mais pour essayer de sentir ce qu'il y pourrait y avoir dans cette exploration de la pensée. Donc essayer de rendre compte de ce qu'il y a d'assez particulier dans la pensée. Jung dit que la conscience est un phénomène assez récent dans l'histoire de l'univers. On ne va pas donner des dates, peu importe, mais avant ces dates, c'est quelques dizaines ou centaines de milliers d'années, dans la période précédente, avant que surgisse la conscience, quelle que soit la bonne ou mauvaise raison pour laquelle elle a surgi d'ailleurs, avant ceci, dans le fond, il y avait un monde certainement de montagnes, de rivières, de plantes, d'arbres, mais ce monde ne savait pas qu'il était là. La montagne, elle est là, mais elle n'a pas conscience d'être là. L'eau de la rivière, elle ne se dit pas, moi je suis de l'eau douce. L'eau de la mer, elle dit, ah, mais par contre, moi je suis de l'eau salée. Voilà, donc les éléments de la nature, les choses, si vous voulez, sont là, complètement là, mais sans avoir aucune conscience d'être là. Sans évidemment comparer, l'arbre, il compare à la plante, il dit, moi je suis quand même plus grand, à la plante, oui, c'est un peu dommage, je suis plus petit, puis j'ai de l'ombre, etc. Non, les éléments sont simplement là. Et l'été, il ne dit pas, tiens, c'est le moment que j'arrive, le printemps se termine, il faut que je commence à me préparer, pour m'échauffer un peu pour arriver. Voilà, les choses sont là, elles changent, mais sans qu'il y ait conscience. C'est ce qui caractérise les objets, c'est une simple manière d'être, on pourrait dire pleine, simplement là, mais sans conscience d'être là, sans conscience de soi. Et tout d'un coup surgit à nouveau, quelle que soit la, quelle que soit la raison, surgit quelque chose de particulier dans l'univers qui n'était pas là avant et dans le fond qui est le sens. Tout d'un coup, dans cet univers apparaît quelque chose qui est le sens. Un sens qui peut être là, qui surgit, sens de ceci, sens de cela. Les poissons sont, je sais pas, ils sont dans l'eau parce qu'ils ont des nageoires, les oiseaux dans le ciel parce qu'ils ont des ailes. Tout d'un coup surgit toute la possibilité de sens. C'est beau, c'est pas beau, c'est voilà. Est-ce que ça a un début, une fin, tout ceci surgit tout d'un coup. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement surprenant qu'à un moment donné surgisse ce sens, mais ce sens, il ne surgit pas comme un autre objet dans la nature. Il y avait des petites fleurs, des grandes fleurs, puis maintenant surgit le sens. Ce n'est pas comme un objet, comme une chose. Ce sens surgit justement avec le surgissement de la conscience. Mais le sens, il n'est pas à trouver dans le monde. Même si ce sens, il essaye d'interpréter le monde en lui donnant un sens, les objets, etc. Donc ce sens, il ne se trouve que dans une conscience qui est justement, qui se manifeste sous cet aspect du sens. Donc cet élément tout d'un coup neuf surgit, qui est ce sens qui surgit dans l'univers. Et ce sens ne peut surgir, enfin, surgit avec le surgissement de la conscience, à nouveau, quelles que soient les raisons ou la manière dont ceci surgit dans l'univers. Maintenant, ce sens qui surgit, eh bien, il n'est pas un objet, une chose, dans le fond. Ce sens est lui-même conscient de lui-même. Il n'y a pas une sorte d'autre élément qui va venir dire « Ah, ben tiens, voilà, le sens a surgi ». C'est la conscience qui surgit sous cet aspect du sens. Elle est elle-même sens dans la pensée. Consciente d'elle-même, donc ce sens n'a pas besoin d'autres éléments pour avoir son sens, pour être conscient. La pensée est conscience de sens. Parce que l'aspect essentiel de la conscience, c'est d'être conscience de soi. Exprime un philosophe bouddhique du 7-8e siècle, Shantarakshita, il essaie de clarifier ceci, il dit contrairement aux choses inanimées, la conscience est essentiellement conscience de soi. Voilà ce qui la caractérise. Dans toutes ces manifestations, dans toutes ces expériences, ce qu'est la conscience, elle est conscience de soi. Ce qui, contrairement aux choses inanimées, ce qui n'est pas évidemment le fait des objets. Et ceci, évidemment, nous en faisons l'expérience à chaque instant. Mais la grande difficulté, c'est que constamment, nous voulons traiter les faits de conscience, les pensées, les émotions, les images mentales, comme si c'était des objets, des choses. Parce que ça, on est tellement habile pour les traiter que lorsque surgissent les pensées, les images mentales ou les émotions, on veut les observer comme des choses, on veut les traiter comme des choses. Alors évidemment, là, on n'a pas affaire ni à la pensée, dans le sens de sens, ni à l'image mentale, ni à l'émotion. On a affaire à quelque chose d'autre. On a traduit, transformé cette pensée, cette émotion en une chose, en un concept, et puis tout d'un coup, on essaye de comprendre ce que c'est, mais enfin, c'est plus du tout l'expérience elle-même à laquelle on s'intéresse. On s'intéresse à une sorte de concept, de photographie, de substitut et de la pensée, de l'image mentale ou de l'émotion. Puis après, on se dit, mais c'est difficile, je ne sais pas quoi en faire, je ne comprends pas bien. Parce que dans le fond, on n'a pas affaire, dans notre investigation, directement à l'émotion, on a affaire à quelque chose d'autre qui vient se substituer. Donc on ne sait pas comment l'intégrer, cette émotion. Elle reste comme un corps étranger, comme quelque chose qui ne peut pas être digéré, puisqu'on la traite comme un objet, ou la pensée d'ailleurs, alors qu'elle est Quel est cet aspect de la conscience, consciente d'elle-même, qui se manifeste sous l'aspect de pensée, d'émotion, etc. Vous voyez, cette manière que nous avons de donner aux pensées une sorte de solidité, ceci est extrêmement fréquent, extrêmement intense. Je rappelle toujours Piaget qui demandait aux enfants, pourquoi le soleil s'appelle soleil, et il disait parce qu'il est jaune. C'était une évidence. Et d'ailleurs, on comprend bien ce qu'ils veulent dire. On n'oserait pas le dire, mais enfin, on comprend bien. Il y a quelque chose dans le mot d'objectif, on comprend bien. Ou quand ils demandaient qu'est-ce qui est plus lourd, le mot plume ou le mot plomb, les enfants disaient le mot plomb. Alors, on fait attention, on dit un truc là, mais n'empêche que on serait pas loin de dire la même chose. Si on faisait en disant là, il y a un truc, je fais attention. Mais n'empêche, si on est dans un argument par rapport à quelque chose et qu'on se balance des vérités, comme on dit, qui font mal d'ailleurs, comme des objets, hein, c'est bien qu'on donne une solidité. C'est bien qu'à ce moment-là, là, on traite les pensées comme si c'était des choses. Je donne une citation de Sartre qui est extrêmement parlante. Il parle des mots, il dit « Le sens devient matière, il en acquiert la consistance inerte, l'idée s'est épaissie, écrase l'esprit qui la supporte. C'est une pierre qu'on ne peut ni soulever ni rejeter. Pourtant, cette énorme masse est demeurée sens de part en part. » Il écrit bien. Le mot, tout d'un coup, c'est quelque chose qui devient pesant, qui est lourd, etc. Parce qu'on le considère comme un fait objectif, comme une chose. Et à ce moment-là, quand on aborde la pensée, dans la méditation ça vient, on dit, moi je laisse passer les pensées, hein, un peu comme les wagons du train, on va bien les encourager des fois pour qu'elles passent un peu plus vite, mais c'est ce rapport-là quand même présuppose que ce sont des choses qui dans le fond nous embêtent. On a dit, bon, faut pas se battre contre les pensées, ça, mais ça nous embête quand même un peu. Et même quelquefois, l'approche qu'on peut avoir quand on s'intéresse qu'à l'impermanence des pensées, elle passe. Alors elle passe comme toute chose qui passe d'ailleurs. Mais ce qui m'ennuie dans cette histoire, c'est que si on prend conscience que les pensées partent, passent, on n'a pas compris ce qu'est la nature d'une pensée. On a juste compris qu'elle passe. Mais quand on sera pris par une pensée, on va lui donner une solidité objective qui fait qu'elle va nous écraser, comme le mot de Sartre. Parce qu'on n'aura pas toujours cette sensibilité pour voir que les pensées, elles défilent à toute vitesse. Donc l'exploration des pensées est tellement intéressante parce qu'elle est libératrice. L'idéal dans la méditation, c'est pas de ne pas avoir de pensée. Pour imaginer que ça pourrait arriver, on pourrait développer des techniques de concentration où il n'y a pas de pensée, mais voilà, le gain serait quand même très relatif. Parce qu'au moment où on va retourner dans le monde, il faudra bien de temps en temps penser. À ce moment-là, on n'aura pas du tout, ce ne sera pas débarrassé de la confusion par rapport à la nature de la pensée. Le bouddhisme primitif avait organisé, dans les siècles qui ont suivi la mort du Bouddha, organisé un peu tous les enseignements du Bouddha dans un tout un peu cohérent, qu'on appelle l'Abhidharma, mais pas complètement cohérent. Et lorsque les moines bouddhistes, par la suite, disons 3e, 4e siècle jusqu'au 12e siècle, eh bien, en Inde, c'est un pays où on aime bien discuter une religion, et ici, religion, philosophie, psychologie, autres ne sont pas séparés. Donc, tout d'un coup, dans ces dialogues, dans ces discussions, dans ces débats avec les traditions jaïnes, la tradition brahmaniste, eh bien, tout d'un coup, les penseurs bouddhistes ont dû préciser, approfondir leur compréhension de ceci. Ils se sont rendus compte que les adversaires, entre guillemets, avaient beaucoup de cohérence et voyaient tout de suite où il y avait des failles. Donc on assiste vers du 6 au 8e siècle, peut-être même avant, une grande élaboration de la perception, la pensée, etc. Pour dire, mais dans le fond, il ne faut pas oublier que tout ceci surgit de la méditation. Ce n'est pas dans des laboratoires où on observe des animaux qui vont dans des labyrinthes. Toute la connaissance-là, elle est faite par des moines en général ou des nonnes qui sont assis en méditation et qui essayent d'explorer ce qui se passe. Et Dhammakirti, c'est un des plus grands penseurs de la tradition bouddhique au niveau de la perception, de la conscience, etc. Il décrit la manière dont nous sommes conscients de quelque chose. Et ça aussi, c'est quelque chose d'étonnant, parce que comment ça se fait que nous sommes conscients qu'il y a un monde ? Ça paraît évident et simple, mais lorsqu'on essaye de... Dans l'invitation, ça surgit, quelquefois, ce questionnement. Il dit en substance ceci, il dit la conscience ne connaît pas le monde directement. La conscience ne connaît pas le monde directement, mais à travers l'aspect qui surgit en elle-même, et elle se connaît elle-même. Je vais vous traduire ceci un peu plus simplement. C'est que, dans le fond, la conscience, qui est par essence conscience de soi, comment elle perçoit le monde, c'est la manière dont elle est affectée par ce qui l'entoure. Et comme elle est consciente de soi, elle est consciente de cette manière dont elle se transforme, et de cette manière-là, elle est consciente du monde qui évolue autour d'elle, de ce qui se passe, parce qu'elle est consciente de son impact, de l'impact que ceci a en elle, et comment elle-même se manifeste d'une autre manière, puisqu'elle est consciente de soi. Donc ce qui revient à dire que dans le fond, la connaissance, la conscience du monde, elle dépend essentiellement d'une conscience de soi-même, consciente de tous ces impacts que le monde, que les autres ont sur la conscience, et tout d'un coup, il se passe ceci, et ce qui permet dans le fond, à ce moment-là, de déterminer ce qui se passe dans le monde. Mais pas de manière directe, de cette manière de conscience de soi. Ce qui montre bien que dans chacune de nos expériences, lorsque nous sommes assis, lorsque nous marchons, lorsque nous déplaçons, lorsque nous mangeons, il y a toujours cette conscience de soi dans chaque expérience et que nous appelons présence. Pleine conscience, sati. Donc dans la pensée, elle est aussi, la pensée, elle est perçue ou comprise. Son sens est compris parce que la conscience est consciente de soi dans ce sens qui surgit en elle-même. Pas une séparation. Cette conscience de soi, c'est pas la conscience qui se regarde devant le miroir qui dit « Ah voilà, je suis comme ça aujourd'hui ». Elle est par nature un peu comme la flamme de la bougie brille, non pas comme quelque chose qui devrait s'observer pour se découvrir. Une sorte de processus avec une scission interne de soi-même. La conscience est consciente de soi par essence à chaque instant. Et dans la méditation, les Tibétains sont très précis là-dessus. Ils disent, ben voilà, ils vont questionner les pensées en disant, ben, d'où est-ce qu'elles viennent? Est-ce qu'elles viennent de la montagne? Si je pense à une montagne, des rivières, etc. Ils disent, ben voilà, on va essayer d'imaginer qu'elles sont vraiment concrètes, ces pensées. Alors on va essayer de trouver d'où elles viennent. Et quand on commence à dans le fond, se questionner comme si la pensée était objective, on se rend compte que ça n'a pas de sens. Vous n'allez pas, tout d'un coup, vous n'avez plus vos téléphones, mais si vous l'aviez, appeler une personne et dire « Tu arrêtes de venir me déranger dans ma méditation. » Parce que cette personne, elle n'arrête pas. Vous avez des images de cette personne, donc reste à la maison, moi je médite, toi tu ne viens pas. Donc cette pensée, cette image, on sait bien qu'elle ne vient pas de la personne, mais qu'elle surgit en nous-mêmes, quelles que soient les raisons d'ailleurs. En raison du contexte, on peut entendre un bruit, n'importe quoi, qui tout d'un coup peut faire surgir cette image de la personne. Donc en essayant de se dire, tiens, eh bien, si cette image ou cette pensée était ce que j'imagine, alors elle devrait venir de quelque part, et on voit bien qu'elle vient de nulle part. L'idée ou l'image d'un verre d'eau, elle ne mouille pas. Vous essayez de le verser sur vous pendant toute l'assise, vous n'allez pas. Voilà. Tiens, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es tout mouillé. L'image d'un chien n'aboie pas. Vous n'allez pas lui dire chut, je suis dans la salle de médic parce que vous imaginez un chien. Donc, on se rend bien compte dès que. On essaye de se dire bah, tiens, si c'était concret, alors qu'est-ce qui se passe? On voit bien que ça n'a pas de sens. Cette image de la personne qu'on imagine, à quelle distance est-ce qu'elle est? C'est complètement absurde. Quand on essaie de la mettre à une certaine distance, on se rend compte qu'on ne peut pas faire ceci, ni lui donner une taille. Parce que ce ne sont pas des objets. Parce que c'est la conscience elle-même qui surgit sous cet aspect-là, elle n'a pas le recul pour pouvoir lui donner une taille. Elle n'a pas le recul pour pouvoir la placer, puisqu'elle est elle-même cette imagination, cette image qui surgit. Donc l'image mentale, la pensée qui est ici, le sens qui peut surgir, sont la conscience elle-même et ne sont pas situées quelque part par rapport à la conscience, les pensées devant, etc., ou l'image mentale. Donc les manières d'aborder ceci dans la méditation, tout d'abord c'est de réaliser que justement l'image d'une personne n'est pas la personne, qu'elle n'a pas de taille, qu'elle n'a pas de dimension, qu'elle ne se situe pas à une certaine distance de soi, et qu'elle n'est rien d'autre qu'une image mentale, que de l'imagination, de même la pensée, qu'elle n'est qu'un sens. La pensée n'est pas quelque chose d'objectif, elle est quelque chose qui surgit dans la conscience, et à ce moment-là, je me rends compte qu'elle n'a pas de solidité. Donc elle n'est plus un poids qui m'accable. Si cette pensée porte sur les autres ou sur moi-même, eh bien, je me rends compte que c'est qu'une manière de penser. Comme on en a déjà parlé, quand vous êtes au réfectoire ou ailleurs, d'ailleurs, et puis qu'il y a ces jugements qui viennent sur les autres personnes, on a l'impression que cette pensée, elle se trouve là. Personne bruyante, elle est là, dans cette personne-là. Cette personne égoïste, elle est là. La pensée égoïste vient... comme les Tibétains questionnent, elle vient, on la lit là, égoïste. Voilà, bruyant. Et à ce moment-là, ceci nous lie complètement. On est contraint dans ce rapport. On a affaire à une personne bruyante, on a affaire à une personne égoïste, on a affaire à une personne hyper sympa. Mais quand on se rend compte que ce sens, c'est simplement quelque chose qui surgit dans la conscience, quelque chose qui est de l'ordre de ce sens qui surgit et qui n'a pas une réalité objective, à ce moment-là, je me libère de cette contrainte. Je pourrais très bien imaginer une discussion de travail importante, animée, les gens défendent des projets, je ne sais pas. Et si je peux prendre conscience que mon point de vue est autre, c'est une croyance, c'est une pensée, ça ne veut pas dire que je ne vais pas le défendre. Mais je ne le défends pas comme si c'est une réalité. Je le défends comme si c'est un point de vue. Et je ne prends pas l'autre personne qui peut d'ailleurs s'attacher certainement à son point de vue comme une réalité. Et je me rends compte que cette personne est en train de défendre son projet comme si c'était la réalité, alors que c'est un point de vue. Ça, c'est extrêmement libérateur. Oui, d'accord, je comprends bien que tu vois la situation comme ça. C'est comme ça que je l'imagine. Et on est en train d'échanger de points de vue, de imaginations sur des projets qui ont leur intelligence, etc. Mais on n'est pas en train d'opposer deux réalités, une pierre contre une autre pierre. Et évidemment, là, ça c'est un peu plus difficile. Donc le fait de reconnaître que ces pensées sont des croyances et pas des vérités, ou des réalités, ceci est extrêmement libérateur. À nouveau, bien plus libérateur que n'avoir pas de pensée. Pas de pensée, c'est plus calme, on est d'accord. Peut-être plus agréable par moment, on est d'accord. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus libérateur. Maintenant, si par moment dans votre méditation il n'y a pas de pensée, ça ne sert à rien de vouloir en faire surgir. Il y en a bien qui surgira à un moment donné, et à ce moment-là, vous vous questionnerez. Non, il y a des phases où la conscience est extrêmement calme, l'esprit est extrêmement calme. À ce moment-là, c'est le moment d'explorer le calme, ce n'est pas le moment de vouloir s'agiter. Mais au moment où surgissent des pensées, des jugements, à ce moment-là. Et lorsque on découvre que la pensée, il y a cette manière qui a ce sens de surgir dans la conscience, est consciente d'elle-même, tout d'un coup, chaque pensée est un lieu de la présence. Présence très forte, parce qu'il n'y a plus ce côté qui amène la confusion. Chaque pensée est une expérience de présence. Donc ce n'est pas un obstacle en soi, même si évidemment la pensée est un peu plus difficile à aborder que la sensation corporelle ou que l'audition, mais elle n'est pas en elle-même, ou l'image mentale d'ailleurs. Et cette image mentale que je pourrais avoir, je parlais l'autre jour de l'anticipation, bien cette anticipation, cette image mentale à laquelle je donne une réalité concrète qui est juste dans le futur immédiat. Et on voit bien, je pense que ça existe, et non pas que c'est simplement cette manière qu'a la conscience d'imaginer. Et si je prends conscience de ceci, à ce moment-là, cette imagination, cette anticipation a lieu de la présence, et non pas une sorte de source de confusion. Donc il y a diverses manières d'aborder la pensée, un peu plus grossière en disant, bien voilà, l'image mentale n'est pas... qu'une personne n'est pas cette personne, etc., d'un lieu n'est pas le lieu, et puis lentement, si l'esprit est plus calme, plus sensible, alors de se rendre compte que c'est que ce sens qui se manifeste, et qui est sens qui est conscient de lui-même. Là, on a l'impression qu'on commence à découvrir quelque chose de fondamental sur le fonctionnement de la conscience, qui est d'une richesse immense. On a découvert la nature de la pensée, de toutes les pensées, même des bouquins philosophiques compliqués, c'est la même chose, elles ont les mêmes natures, les pensées. Qu'elles soient compliquées ou simples, la nature est la même. Mais ce qui s'est manifesté dans ce sens qui a surgi de la conscience, c'est aussi quelque chose d'extrêmement riche, parce que ce sens qui surgit, il a aussi un impact, dans le fond, sur la conscience. Cet impact, on pourrait dire aussi, surgit dans la conscience l'émotion. On pourrait parler tout d'abord de choses un peu plus simples. On peut surgir de la joie, pas nécessairement dans les émotions, mais de la joie, de la tranquillité. Voilà, c'est surgit bien. Ça, la joie que j'éprouve quand je regarde le paysage, ce n'est pas un objet. Et si je veux le garder, c'est comme si c'était un objet. C'est aussi la conscience qui se connaît elle-même sous cet aspect joyeux. On ne prend pas conscience de la joie. La joie, elle est elle-même consciente d'elle-même. Autrement, c'est qu'on en fait un objet. De la même manière pour le calme, on ne dit pas, voilà, il y a le calme. Le calme aussi, il est conscient de soi. Qualité de présence. La somnolence aussi. Mais dès qu'on les traite comme objet, à ce moment-là, commence à devenir plus compliqué. Mais ici, j'aurais parlé de ce qu'on appelle des émotions qui sont plus intenses, on pourrait dire, qui impliquent une vision singulière du monde, particulière à l'émotion. C'est-à-dire que la somnolence, la joie, ne transforme pas nécessairement l'apparence de l'entourage ou des autres, mais l'émotion, oui, elle a cet impact-là. La tristesse. La tristesse est une vision du monde qui est spécifique à la tristesse. Très différente de la joie. La tristesse voit un monde terne, un monde, une personne, une situation extrêmement terne. Et elle prend cette vision du monde sous la tristesse, elle la prend pour quelque chose d'objectif. Donc si cette manière était une manière objective de voir, eh bien, c'est complètement justifié d'être triste, on ne peut pas faire autrement. Si le monde était aussi triste que la personne triste le voit, ou aussi déprimant que la personne déprimée le voit, il n'y a pas d'autre choix que d'être déprimé. Et dans la mesure où on prend ceci pour quelque chose d'objectif, le monde il est comme ça, on s'enferme évidemment dans l'émotion, parce que c'est le monde, il est comme ça, il est triste, etc. Donc l'esprit reste dans cette coloration de tristesse, et ce qu'il perçoit, cette coloration de tristesse fait qu'il perçoit le monde comme triste, et il s'enferme dans cette boucle-là. Donc on voit ici l'impact un petit peu du sens ou de la pensée qui vient, qui accompagne une certaine coloration, comme dans la tristesse ou l'inquiétude. L'inquiétude projette sur le monde une sorte de danger qui pourrait se trouver un peu partout. Donc il y a une anticipation de quelque chose de non souhaitable, de nuisible qui pourrait surgir dans ce futur très proche. Mais si c'est vrai qu'il y avait tellement de choses qui se cachaient derrière chaque arbre, etc., comme l'inquiétude le voit, il y aurait de quoi être inquiet. Il vaudrait mieux faire extrêmement attention avec cette hyper-vigilance qui dit « Oh là là, attention !» Donc quand la personne, il y a ce sens qui est donné au monde par la pensée, on ne sait jamais, etc., avec des arguments d'ailleurs. La pensée peut venir alimenter ceci. Oui, mais j'ai lu dans le journal l'autre jour, voilà, qu'il y avait un ours derrière un arbre. On a oublié que c'était un journal canadien. Mais voilà. Donc voilà, on alimente. Comme pour justifier, j'ai raison, ma vision est une vision juste. Et là, il y a de l'inquiétude. Parce qu'on croit que c'est la réalité, mais quand on se rend compte que c'est l'inquiétude qui perçoit le monde comme ceci, et qu'il y a une c'est une perception qui n'est pas objective, qui est singulière, disons, qui n'est pas partagée, à ce moment-là, on peut commencer à douter un petit peu de cette vision objective. Dans ce cas-là, de l'inquiétude, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette projection d'une image d'un monde inquiet qui est là dans le futur immédiat et qui pourrait se manifester. Donc une croyance dans le futur immédiat, dans l'existence concrète, réelle du futur immédiat ou proche. Mais si je me rends compte que cette projection d'un futur immédiat ou cette idée, elle est là dans l'instant, à ce moment-là, l'inquiétude est complètement décrédibilisée. Ça veut dire que cette image de ce qui est projeté, auquel je donne une réalité, tout d'un coup perd sa réalité, ça apparaît simplement comme de l'imaginaire qui surgit en cet instant. L'inquiétude, elle n'a plus de raison d'être. À nouveau, parce qu'elle est décrédibilisée. Donc il y a dans l'émotion, il y a un impact différent, il y a une croyance, une certaine vision du monde propre à l'émotion, il y a une inscription corporelle, une réaction qui se fait dans le corps. La croyance, elle est, ce qui est spécifique à l'émotion, cette qualité de tristesse, cette qualité d'inquiétude, et l'inscription corporelle. Et si on en fait un bloc, un amalgame, à ce moment-là, c'est difficile d'être conscient de ce qui se passe. Et souvent on croit que il suffirait d'être en contact avec la dimension corporelle pour comprendre ce qu'est l'émotion. Bon, ce n'est pas le cas. La dimension corporelle, la tension corporelle, l'inconfort corporel qui peut accompagner l'émotion n'est pas l'émotion. Elle manque le sens. D'ailleurs, quelquefois on a un inconfort dans de certaines zones du corps, on ne sait pas à quoi ça correspond. Et peut-être qu'au bout d'un moment, on découvre, tiens, dans le fond, il y avait de l'inquiétude ou de l'impatience. Donc il est important de les distinguer. Ils sont liés, mais ils ne sont pas la même chose. De ressentir l'inscription corporelle dans certaines zones du corps. Et puis d'un coup, découvrir, tiens, qu'est-ce que c'est que la qualité de l'esprit qui est inquiet, justement. C'est plus qu'une certaine agitation dans le corps, comme si on avait bu trop de café. On pourrait avoir bu trop de café sans être inquiet. L'inscription corporelle serait similaire. Donc il y a autre chose, il y a ce sens de cette anticipation du danger. Alors, on peut prendre différentes formes selon notre histoire, notre créativité. Il me semble quelquefois que dans la peur, autre chose, peut-être l'angoisse, il y a cette inscription corporelle très très forte qui est éprouvée comme angoisse. Et que c'est difficile de la toucher s'il y a cette confusion entre l'inscription corporelle et l'angoisse elle-même. Mais au moment où je peux me dire, tiens, ça c'est l'inscription corporelle, par exemple. Cette manière, je l'exagère même, je peux l'exagérer mentalement dans ma méditation, ou même me tendre un peu le moment, c'est comme ça l'inscription corporelle. Mais cette inscription corporelle, dans le fond, elle n'a rien de dramatique. Je peux très bien m'imaginer être comme ça, et alors? C'est quand tout d'un coup je donne le sens de ceci à l'angoisse, alors ce bloc-là devient difficile à accueillir. Donc en touchant cette dimension corporelle, je peux la toucher, ouais, je sens ça, je peux ceci, je peux le vivre, etc. Et à ce moment-là, on a l'impression que ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de démantèlement de ce complexe qui était extrêmement contraignant, et quelque chose de vivant peut surgir. Quand l'émotion est vue, remise dans ce qu'elle est, c'est-à-dire un aspect de la conscience, elle peut être intégrée dans la conscience, elle peut être digérée. Tant qu'elle est vue comme quelque chose d'objectif, elle est indigeste. Donc on peut d'ailleurs avoir une indigestion d'une émotion pendant 20, 30, 40 ans, ça peut durer, mais tant qu'elle est vue comme quelque chose d'objectif, elle ne peut pas être digérée, parce qu'elle n'est pas, elle n'est pas de nature digestible, entre guillemets, par la conscience. Et c'est au moment, et ça je crois que c'est l'outil extraordinaire que nous avons dans la méditation, c'est que lorsqu'on reconnaît l'émotion comme cet aspect-là de la conscience, cette coloration, tout d'un coup on se rend compte qu'elle peut être digérée, assimilée, mais assimilée c'est un peu comme si on donnait à un gaz un plus grand espace et il se dissout. Alors qu'avant il restait comme quelque chose de solide, tout d'un coup il y a plus d'espace et il perd son aspect contraignant. Mais seulement quand cette émotion est vécue dans le présent comme aspect de la conscience et non plus comme objet. On sait très bien comment gérer les émotions en général en essayant de changer le contexte. Je suis fâché contre une personne, par une situation, je m'énerve, puis je me dis, attends, je vais me raisonner. Dans le fond, c'est pas si grave que ça, cette personne a dit ça, mais faut pas oublier que dans le fond elle avait ça en tête, et puis elle a raison, je change le contexte, et puis je me rends compte, j'ai pas de raison d'être aussi énervé que je le pensais tout d'abord. On a changé le contexte, et c'est une manière qu'on utilise très souvent, c'est une manière judicieuse. C'est judicieux de prendre un peu de recul par rapport à une situation, de dire, ben voilà, dans le fond, et quelquefois, comme on interprète une parole anodine, puis tout d'un coup on en fait quelque chose de terrible, et puis on dit, attends, voilà, qu'est-ce qu'elle a vraiment dit cette personne? Ben, elle a vraiment dit ce qu'elle a dit, pas penser autre chose que je pense qu'elle pensait, et puis tout d'un coup je commence à vraiment m'inquiéter. Mais la manière la plus radicale de changer le contexte, c'est de placer la croyance dans l'instant présent. À ce moment-là, on change le contexte de manière radicale et l'émotion perd de sa crédibilité. La croyance qui soutient l'émotion perd de sa crédibilité. Si on imagine de l'impatience, imaginez de l'impatience au présent. Dans l'absence d'une sorte de futur immédiat. Ça veut dire quoi? Impatience, j'attends quelque chose, mais il n'y a pas d'instant futur. Ben, ça ne sert à rien d'attendre. Hein. Et ce n'est pas une réflexion, c'est tout d'un coup une perception. On se dit, mais enfin, qu'est-ce que je fais là? La même chose pour l'inquiétude. Cette inquiétude replacée au présent, éprouvée au présent tout d'un coup. Mais quoi? Ça ne veut rien dire du tout. Vous voyez, je ne me convainc pas. Je ne suis pas en train de me convaincre. Je suis simplement en train de placer dans ce qui est là perceptible, et l'instant futur n'existe pas encore. Il n'est pas là. Donc, à ce moment-là, toute la crédibilité que je donnais à cette croyance, elle disparaît. Donc je crois que nous avons, dans cette approche, avec cette présence à chaque instant, qui évidemment présente certains défis, quelquefois quand les émotions sont intenses et hautes, c'est pas si simple d'être présent. Mais quand même, nous avons là une possibilité de nous libérer du pouvoir contraignant des émotions. Non pas parce qu'on les raisonne, comme ça peut être, mais là, parce que simplement on voit ce qu'elles sont, elles peuvent s'intégrer, quand on a compris la croyance qui les soutenait, elles peuvent se réintégrer dans la conscience. Et ce qui m'intéresse dans ce processus, c'est qu'évidemment, quelquefois, c'est des croyances qui ont la vie dure. Et quand tout d'un coup, même ça fait tellement d'années qu'on croit ceci et que tout d'un coup c'est décrédibilisé, à ce moment-là, on a vraiment sapé cette émotion à la racine. Vous voyez, ce n'est pas juste une gestion, je pourrais revenir à la respiration, me calmer tranquille, ça peut être parfois la seule manière et très judicieux, mais je n'aurais pas désamorcé l'émotion. Mais là, si on prend conscience de la croyance qu'il a sous-tend et qu'on voit qu'elle est décrédibilisée, à ce moment-là, cette croyance, elle ne surgit plus. Donc il y a quelque chose de libérateur, et pas simplement dans l'instant. On se libère d'une confusion persistante, parce qu'on la maintenait. Je reviens à comment j'ai essayé de décrire cette tension qui pourrait accompagner la peur ou l'angoisse. Je lisais dans un poème d'un poète anglais, mais j'ai lu qu'une phrase, parce que c'était trop compliqué, mais cette phrase-là m'a frappé. Qui s'appelle Milton, et il dit « Je suis le donjon de moi-même ». Et cette phrase-là m'a fasciné, je me disais « C'est extraordinaire, je suis le donjon de moi-même ». Alors, donjon, on voit bien quelque chose de solide et autre, et c'est pas que je me convainc, et puis voilà, toutes mes croyances me mettent à l'intérieur, moi je le sens très physiquement. Lorsqu'on est tendu comme ceci, mais on est à la fois le prisonnier et la prison. Complètement tendu, coincé comme ça, là je suis le prisonnier de la prison, mais dans le fond, ce que je suis là est ouvert sur l'extérieur. Dans la mesure où je peux complètement être ceci, je me rends compte que, voilà, il n'y a plus de prisonnier et de prison. C'est pour ceci que j'évoquais dans l'angoisse quelquefois d'assumer cette tension pleinement, tout d'un coup ça libère parce qu'on se rend compte que cette position-là n'est pas l'angoisse. Le donjon de soi-même, c'est cette phrase en tout cas qui m'interpelle et qui me parle beaucoup. Quand surgit de la tension, disons, tiens, voilà, je suis prisonnier de mes propres tensions. Je m'agrippe à quelque chose et on dit lâche, lâche, lâche. M'attrape. Mais là, quelqu'un me tient, mais lâche-toi. Je ne peux plus bouger. Donc d'explorer ça dans l'expérience, évidemment, si ça doit surgir par moment. Maintenant, il est possible, quelquefois, quand l'émotion est trop intense, qu'il s'agisse d'utiliser des stratégies judicieuses. Prendre un espace corporel différent, de sentir les bras, les mains ou les pieds. De prendre de la distance par rapport à l'émotion. Si elle est trop difficile, c'est la manière judicieuse. De l'aborder avec du doigté, parce que quelquefois, ça représente un défi trop grand pour la qualité méditative à cet instant. Donc il s'agit à ce moment-là de dire, là j'y vais tranquillement, quitte à aller faire une promenade, reposer un petit peu. C'est pas le fait qu'on veuille se battre contre pour dépasser qui va aider. Ça demande vraiment de la sensibilité, être judicieux. Pour ceci, il faut une certaine disponibilité. Donc on l'a créé par la pratique, et il s'agit de savoir quand il est judicieux, de prendre faire une pause par rapport au contact avec l'émotion. L'autre jour, j'ai commencé par cette phrase de Martin Buber, où il évoquait Dieu qui demande à Adam, où es-tu ? Question qui peut habiter notre méditation, mais c'est évidemment, si on répond, je suis à Roissard, Je ne pose pas la question, mais pour nous-mêmes, voilà, je suis un roi ça. C'est pas immensément enrichissant. Mais ce qui me semble quand même enrichissant, c'est que dans chacune de nos expériences, somnolence, agitation, tranquillité, calme, etc., tristesse et autres, cette question, elle peut être posée. Où est-ce que je suis dans cette expérience? Où est ma présence dans cette expérience? Et autrement, on développe une sorte de tic, de méditant, où lorsqu'il s'agit d'être présent, il faut fermer les yeux, mettre les mains comme ça, et être dans la respiration. Alors, j'étais perdu. Vous rendez-vous compte? Comme si le lieu de la présence, c'était dans la respiration, quand on a les yeux fermés, on est assis tout droit. Ce qui veut dire, dans la vie quotidienne, on aura beaucoup de peine à être. Mais je pourrais très bien être à table, en train de manger, et puis être dans le vague, comme ceci, tout d'un coup. Et là, c'est pas « je reviens à ceci ou cela », c'est quand je suis dans le vague, comme ceci, où est-ce que je suis présent dans cette expérience-là? Je peux être totalement là, dans cette expérience vague, dans la mesure où je me dis « tiens, voilà ce qui se passe, là, je suis totalement présent ». Il n'y a pas de forme dans la somnolence, dans n'importe quelle situation. Où est ma présence là? Où es-tu? C'est-à-dire en tant que présence, pas en tant que je, moi, je suis là. Ça, c'est pas très difficile, mais où est la présence dans cette situation? Non pas croire qu'elle se trouve dans une position particulière, dans une zone particulière, elle est toujours là. Et ça devient intéressant. On dit, tiens, où est la présence dans cette situation? Où est-ce que je suis présent dans cette situation? Non pas aller vers une autre situation qui me permettra d'être présent. Voilà donc quelques remarques, plus que quelques remarques, mais pour essayer d'aborder ce sujet extrêmement, extrêmement enrichissant pour nous, qui est les pensées, les émotions, et comment on peut les intégrer à la méditation comme moyen de se libérer un peu de la confusion et de découvrir un espace de liberté. Ce ne sont pas des obstacles, c'est quelque chose de riche, mais quelquefois qui est un défi un peu trop grand. Mais pas par nature, simplement parce que notre capacité n'est pas toujours au niveau de la difficulté. Il ne faut pas croire que c'est une difficulté en soi. Voilà, donc par moment, explorer ceci, il y a beaucoup à découvrir, et beaucoup de liberté aussi à acquérir. Voilà, donc je vous propose une vingtaine de minutes de méditation en marchant, puis on se retrouvera là, à nouveau pour une plus courte méditation pour les personnes qui sont fatiguées, un petit peu plus longue pour les personnes qui ne sont pas fatiguées.